on a décidé ensemble de revendications. C'est parce qu'on va faire une campagne qui s'appellera « Laisser enseigner les enseignants » et qui, de fait, va ensuite être visibilisée.
L'axe fort de la campagne sera une pétition lancée au niveau national, une pétition signée par les enseignants pour demander que des mesures protégeant leur santé soient prises.
Il y a bien sûr la question des effectifs des classes, le nombre d'élèves, mais aussi toutes les tâches en dehors des heures face aux élèves, les tâches administratives, toute une série de choses qu'il est possible d'alléger pour rendre le quotidien des enseignants moins lourd.
Bonsoir et bienvenue Claudia et Valérie.
Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
On vous accueille comme d'habitude pour la pause syndicale. Alors comme on vient de l'entendre dans cet extrait sonore diffusé en mars par Canal Alpha, RTN et la RTS lors d'une manifestation d'enseignants organisée dans une classe à Neuchâtel, ce soir on va parler avec vous du métier d'enseignant et de ses difficultés et tout cela avec une pétition.
Oui Fabien, nous allons revenir donc sur cette pétition qui circule parmi les profs de toute la Suisse depuis le mois de mars sous le titre « Laissez-nous enseigner ». Les enseignants dénoncent la pénibilité accrue de leurs conditions de travail et revendiquent de pouvoir exercer leur profession au plus près de leurs valeurs.
En effet, ces dernières années, plusieurs études ont confirmé une situation inquiétante. Beaucoup d'enseignants sont au bord de l'épuisement ou atteints dans leur santé physique ou psychique. Cela peut mener jusqu'à l'arrêt de travail, plus ou moins prolongé, et au burn-out.
Cette pétition est adressée aux autorités en charge de l'école, ainsi qu'à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Qu'est-ce qu'elle contient exactement, cette revendication, Claudia ?
La réduction des tâches hors classe, plus de confiance et moins de contrôle de la part de la hiérarchie, moins d'élèves par classe, avec des mesures adaptées aux besoins particuliers.
Pour mieux comprendre évidemment les difficultés du terrain, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir deux spécialistes de la branche. Zoé Bébou, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django, vous êtes enseignante au niveau primaire. Et à vos côtés, Vincent Braillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de gymnase et tous les deux membres du comité enseignement du syndicat des services publics. Valérie.
Alors, bonjour Zoé et Vincent. Un des points de la pétition demande que tout soit mis en œuvre pour réduire les tâches hors classe, en particulier les tâches administratives. Concrètement, ça veut dire quoi ? De quoi s'agit-il ?
Eh bien, d'abord, merci de nous accueillir pour parler de cette pétition au niveau national qui est vraiment importante. Comme vous l'avez rappelé en insert, c'est vrai que le métier d'enseignant peut s'avérer compliqué et user les professionnels. On peut compter plus de 40% de professeurs qui se disent proches d'un burn-out. C'est quelques chiffres impressionnants. Mais pour rentrer concrètement dans les mesures que nous demandons au travers de cette pétition nationale, nous parlons de la réduction des tâches administratives. Et pour un exemple très concret, par exemple, dans un gymnase, certains enseignants sont ce qu'on appelle des maîtres de classe, c'est-à-dire qu'ils font le suivi des absences et l'interface entre les parents, les élèves et l'établissement et les autres enseignants. Et cet accompagnement ou cette maîtrise de classe est souvent accompagnée d'une décharge, c'est-à-dire que l'enseignant a du temps qui est consacré à cette tâche. Ce qui est problématique, c'est que le temps imparti est fixé au préalable, c'est-à-dire, on va dire, c'est équivalent d'une heure d'enseignement, cette tâche administrative, et ce, quelle que soit la classe que vous allez obtenir. C'est-à-dire, si vous avez une classe où, avec les élèves, il n'y a pas de soucis de discipline, ou pas de soucis familiaux, ou pas de soucis qu'on peut imaginer, je ne sais pas, de problèmes de stupéfiants, etc., etc., eh bien, vous avez la même décharge que si vous avez des classes avec beaucoup de cas lourds, où vous devez faire beaucoup de gestion. Et puis, cette gestion individuelle des élèves et des parents d'élèves, elle est faite par les enseignants qui ont bien souvent pas assez d'appui de l'établissement. C'est par exemple un des exemples.
Et puis, vous réclamez aussi une culture basée sur la confiance et non pas sur le contrôle de la part de la hiérarchie et des autorités politiques. Mais ça fait référence à quoi ? Quels sont les cas concrets ?
Vous avez vous.
C'est vrai que des fois, on nous fait un peu la chasse aux notes, par exemple. On a un nombre de notes minimales et maximales, d'ailleurs, à mettre. Et puis, on est en train de nous dire, t'as toujours pas entré tes notes dans Néo, etc. Donc, il y a ce genre de problématique. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un manque de reconnaissance, de l'investissement. Même si on s'investit, on va dire, pour des tâches qui sortent de l'enseignement pur, ça peut être organiser un spectacle scolaire, etc. Ben, c'est vrai que ça, on nous dit à peine merci. Non, on nous dit merci, mais il n'y a rien de plus. Et puis, il n'y a rien qui est mis en œuvre, on va dire, pour que les profs soient soulagés un peu à ces moments-là.
Et puis, Vincent Brailleur, ben, dans les cas de l'enseignement au gymnase, à quoi ça fait référence ?
Bien, par exemple, la politique liée aux photocopies. Alors, c'est un sujet qui a l'air un peu anodin comme ça, mais en fait, suivant les établissements, les règles sont bien différentes. Vous avez des établissements où les enseignants, je vous rappelle qu'au gymnase, les enseignants écrivent les matériaux de cours qu'ils dispensent. Et donc, évidemment, ils ont besoin de faire des photocopies pour pouvoir donner les 10 matériaux aux élèves. Et dans certains établissements, vous allez pouvoir photocopier autant que vous voulez. Dans d'autres, il y a des quotas. Dans d'autres établissements, vous avez même parfois des endroits où l'enseignant doit avancer l'argent qui paye les photocopies et puis se faire rembourser après avec les élèves. Et donc, vous avez tout un système où il faut aller au secrétariat parce que l'enseignant n'a pas le droit d'avoir l'argent en main propre. Donc, l'élève doit aller payer au secrétariat ou à la comptable, ce qui fait des... Vous imaginez bien le suivi de ce genre, et puis ça dans chaque classe.
Et ça, c'est les établissements qui décident ?
Alors, c'est les conseils de direction et les directions. Et dans chaque établissement, c'est très différent. On a vraiment des exemples dans des gymnases du canton qui vont de pas de contrôle à un contrôle vraiment extrême et abusé. Et le problème, en plus, c'est qu'on demande aux élèves de payer ces photocopies. Et ça pose évidemment la question de la gratuité de l'enseignement pour les élèves à l'école publique.
Et puis voilà, dans cette pétition que vous avez lancée, vous demandez également d'avoir des classes avec moins d'élèves. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment sont ces classes ? Est-ce qu'il y a effectivement trop d'élèves ?
Il y a beaucoup d'élèves. Je ne sais pas exactement les effectifs, mais on va dire que ça tourne autour de 20. Faut savoir que ça change énormément la dynamique. Hein. S'il y a 20 élèves ou s'il y en a 22 ou 18, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression, mais c'est tout le temps qu'on passe auprès de chaque élève pour lui donner un accompagnement spécifique, que ça soit autant pour nourrir les élèves qui sont preneurs, qui sont demandeurs, et également évidemment du temps pour les élèves qui sont en difficulté et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être relancés dans les activités.
Vous préconiseriez combien d'élèves selon vous, hein, personnellement, dans une classe ?
Maximum 20. Je pense que c'est vraiment le ouais.
Donc
le
ça veut dire qu'il y a des classes qui sont beaucoup plus de 20.
Il y a des classes où il y a plus de 20, oui. Et il y a également le suivi avec les parents et les autres intervenants. Évidemment que dans une classe, moi je suis à l'école obligatoire, donc on a un suivi avec les parents qu'on rencontre, et c'est des rencontres qui sont souvent très riches et importantes. Simplement, plus on a d'élèves, plus c'est difficile de dégager du temps, parce qu'il y a des parents qu'on va voir peut-être une fois par année parce que tout roule et puis que ça joue. Mais il y a d'autres élèves, on va les voir 5-6 fois. Et puis ça, c'est beaucoup de temps.
Oui. Et puis, Vincent Brailleur, dans le cas de gymnase.
Alors, dans les classes de gymnase, il n'est pas rare d'avoir des classes à 26 élèves. Et là, on voit tout à fait la différence, hein, puisqu'il y a une variance qui est assez grande. Mais la moyenne dans les gymnases se situe autour de 24 par classe, par exemple au gymnase de Nyon. Vous pouvez très bien avoir une classe où vous avez 18 élèves. Et puis, alors là, c'est idéal, on a vraiment du temps à consacrer à chacun, mais vous pouvez aussi avoir des classes avec vraiment 26 élèves. Et là, imaginez si vous êtes maître de classe d'une classe de 26 élèves et que vous voulez rencontrer chaque élève au début de l'année, ne serait-ce que 30 minutes pour, quand il arrive au gymnase, avoir une trace de son parcours, je vous laisse imaginer que c'est 30 minutes fois 26 élèves. Puis ça, c'est la première rencontre. Donc pour chaque élève où il y a, je ne sais pas, de l'absentéisme... C'est cumulatif.
Concrètement, vous souhaiteriez quoi ? Avoir plus de temps dégagé de vos heures d'enseignement, être libéré d'heures d'enseignement pour les activités de suivi de classe, des élèves, de leur parcours, etc.
Ben, dans l'idéal, c'est pas tout à fait. Disons, dans l'idéal, on voudrait qu'il y ait moins d'élèves dans les classes. Ouais. Voilà, parce que le temps dont on a besoin pour chaque élève, lui, il change pas. Donc, si on baisse les effectifs, on a besoin de moins d'accompagnement à côté. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait baisser ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire les périodes de décharge pour la maîtrise de classe. Mais par contre, si on baisse le nombre d'élèves dans les classes, on a un meilleur suivi et des programmes plus adaptés et des mesures où on peut agir quand l'élève est en rupture, par exemple, dans une branche spécifique. Par exemple, un prof d'allemand qui voit qu'un élève est en train de couler en allemand, ben, s'il a 26 élèves, il a moins de temps à lui consacrer, puisqu'il doit tenir le programme aussi.
Valérie, le dernier point de cette pétition.
Oui, alors le dernier point de la pétition réclame la mise en place de soutien ponctuel par des professionnels compétents, comme des éducateurs et éducatrices, logopédistes, psychologues, etc. Mais concrètement, dans votre pratique, vous avez déjà eu besoin de ce type de soutien ? Ça correspond à quelle demande ?
Alors oui, bien sûr, on a des élèves, on a une école qui est de plus en plus intégrative, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Simplement, je dirais qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de nos exigences. Donc oui, on a des élèves qui sont dyslexiques, dysphasiques, enfin tous les 10. On a des élèves qui ont des soucis autres, des troubles du spectre autistique. Par exemple, ou des troubles de comportement, enfin, où il y a vraiment toute une palette de handicap, on va dire. Et du coup, ben, nous, on collabore évidemment avec les logopédistes, avec les psys et autres. Mais je dirais que, alors ça, c'est, là aussi, c'est du temps qu'on doit prendre, mais on le fait volontiers. En général, les professionnels extérieurs le font volontiers aussi. Je dirais qu'il y a un des gros problèmes aussi, c'est tous les élèves qui ne rentrent pas dans des cases. Tous les élèves qui n'ont pas l'étiquette 10 ou autre pour qu'il y a des mesures. Mais ceux qui sont juste à la limite ou ceux dont les parents n'ont pas fait le bilan logo pour X raisons, ces élèves-là, en fait, on nous dit on ne peut rien faire, on ne peut pas mettre un enseignant spécialisé pour t'aider en classe, par exemple. Donc, on nous dit fais au mieux. Une petite tape sur l'épaule. Et puis ça, c'est vrai que c'est très problématique parce que c'est... Voilà, s'il n'y a pas l'étiquette, il y a ça, on n'obtient rien. Or, on voit qu'on travaille dans l'humain, donc tout le monde ne correspond pas aux cases du département.
Oui, et donc, vous avez aussi besoin de ces professionnels extérieurs, Vincent Brière ?
Alors oui, ça peut arriver. Maintenant, il est clair que au gymnase, il y a moins de cas d'élèves qui bénéficient de ce type de mesures. C'est pour ça que Zoé peut vous en parler plus avant.
Zoé ?
Oui, je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'il y a aussi les deux premiers degrés primaires. C'est vrai que c'est les enfants, ils arrivent, ils n'ont encore pas forcément été en garderie, donc ils n'ont pas encore été signalés. Donc c'est vrai que ça, c'est l'enseignant qui va dépister, on va dire, faire les premiers dépistages. Et ça, c'est un énorme boulot pour les collègues des premiers degrés du primaire.
Mmh. Et est-ce qu'il y a beaucoup de collègues qui vous ont suivi dans cette pétition que vous avez lancée depuis le mois de mars, exactement?
Alors, on est en période de récolte. Les pétitions seront données, par exemple, à Madame la conseillère d'État à Marelle, dans le canton de Vaud, à la fin du mois, le 26 juin, au matin. Et il y aura des dépôts qui seront faits ainsi dans tous les cantons. Mais je ne peux pas vous dire exactement où on en est. Je n'ai pas vu le chiffre. Mais en tout cas, dans mon établissement, ça récolte. Je pense qu'à Isabelle de Montelieu, ça récolte aussi. Je voulais juste revenir un petit peu sur les mesures spécifiques dont on parlait juste avant. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a une question de présence in situ qui est très importante. Parce que ces postes de logopédiste, d'infirmière scolaire, il n'y a pas de quota au nombre d'élèves. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de postes. Et puis, si le nombre d'élèves augmente, le nombre de postes, lui, ne change pas. C'est-à-dire que, concrètement, ces professionnels passent moins de temps dans les écoles et sur les sites. Donc, si votre problème il survient quand la logopédiste ou quand la psychologue scolaire elle n'est pas là, parce qu'elle est dans un autre établissement, vous êtes livré à vous-même.
Des activités donc, qui devraient être augmentées et rendues plus fréquentes, selon vous, Zoé, aussi.
Effectivement, oui.
Ouais, tout à fait. C'est sur ces paroles qu'on... On va s'arrêter pour ce soir. On suivra la suite de ce débat. Le dépôt des signatures, rappelez-nous la date, c'est pour tout bientôt.
Nous, ça, dans le canton de Vaud, ça sera le 26 juin.
D'accord. Et puis les nouvelles après l'été, voire même l'automne, pour la suite des événements. Plutôt oui.
Plutôt oui.
Affaire à suivre, donc on vous recontactera d'ici cet automne pour poursuivre évidemment l'avancée de cette pétition. Merci beaucoup à vous Zoé Bébou, enseignante à l'école primaire. Également merci à vous Vincent Braillère, professeur au gymnase. Merci à vous deux d'être venus ce soir.
Merci.
Une toute belle soirée, on va passer au bref syndical. Les brefs syndicales justement qui vous sont proposés par Valérie et Claudia ce soir.
Nestlé entend biffer 580 emplois vaudois.
C'est un coup de massue pour les employés vaudois de Nestlé. Le géant suisse de l'alimentaire a annoncé une nouvelle restructuration dans les 18 mois à venir. 500 des 600 employés au département de technologie de l'information à Lausanne, Vevey et Bussigny voient leur poste menacé. Ce qu'ils craignaient est arrivé. Les emplois seront transférés à Barcelone, où Nestlé a ouvert un pôle informatique destiné à devenir le plus important du groupe. L'entreprise justifie ses coupes par sa volonté d'accélérer sa numérisation. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, sa filiale Nespresso a annoncé en parallèle la délocalisation de 80 postes du siège lausannois vers l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Est-ce que des mutations seront proposées? Qui sera concerné et quand? À l'heure actuelle, il est très difficile d'avoir plus de précisions. Nestlé a annoncé qu'une période de consultation était ouverte jusqu'au 19 juin, et qu'un plan social pour accompagner les licenciements sera soumis au personnel. Unia appelle les travailleurs à se mobiliser et de leur côté, l'État de Vaud et les communes ont rappelé le potentiel de la région et demandé l'ouverture de négociations tripartites.
Convention collective CFF, mobilisation le 18 juin à Lausanne et Genève.
Le renouvellement des conventions collectives des CFF et de CFF Cargo est actuellement en négociation. Les pourparlers sont tendus car la direction des CFF est venue à la table des négociations avec des revendications aussi inacceptables que la réduction de la protection contre le licenciement. Pour le syndicat du personnel des transports SEV, il n'en est absolument pas question, surtout que des suppressions de postes sont déjà programmées dans le cadre de RailFit 2030 et que 800 postes sont également menacés à CFF Cargo. Et la direction des CFF ne s'arrête pas là. Elle veut aussi supprimer les garanties salariales, la semaine supplémentaire de vacances pour les salariés des 60 ans et apporter bien d'autres péjorations à cette convention collective. Le syndicat SEV n'acceptera jamais de telles économies sur le dos du personnel. Pour montrer son mécontentement, il prévoit des rassemblements de protestation le 18 juin prochain, en fin d'après-midi, dans les gares de Lausanne, Genève, Berne, Olten, Zurich et Bellinzone.
Victoire pour les chauffeurs de bus TL.
Mardi 29 mai, le conseil communal lausannois a refusé à une large majorité le postulat du PDC Manuel Donzé qui aurait permis aux deux roues de circuler sur les voies réservées aux bus. C'est une victoire pour les chauffeurs de bus TL car lors du précédent conseil communal, ils avaient remis une pétition qui appelait à rejeter ce postulat. Cette pétition, lancée par la section TL du syndicat SEV, a été signée par plus de 250 conductrices et conducteurs. Elle disait « Permettre l'accès à tout type de deux roues dans les voies de bus va encore aggraver nos conditions de travail et on ne voudrait pas être responsable de l'atteinte potentielle à l'intégrité physique d'autres utilisateurs des voies de bus. »
Mobilisation payante au LEB.
La pétition, signée par la quasi-totalité des mécaniciens du Lausanne Chalon-Bercher cet hiver, a eu des effets bénéfiques. La direction des transports publics lausannois et le syndicat SEV ont pu annoncer en mai qu'ils avaient trouvé des solutions constructives à la satisfaction de tous. Par exemple, au lieu de l'annonce des plannings seulement 7 jours avant le travail, ils bénéficieront d'une visibilité de 20 semaines sur leurs horaires.
Voilà ce qui était des brèves syndicales, les nouveautés qui nous étaient communiquées par les branches régionales des syndicats romands. Merci beaucoup Valérie et merci également à Claudia pour la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une dernière avant la pause estivale. Bonne préparation d'ici là Valérie.
Merci Fabien.
Merci Claudia aussi.
Au revoir.